Avant de parler des Alouettes avec Mathieu Proulx dans quelques instants, il y a un accident majeur qui a impliqué 5 véhicules lors d'une course IndyCar en Pennsylvanie. Vous mentionnez que l'épreuve venait tout juste d'être relancée après un drapeau jaune. Il y a la roue arrière gauche de Ryan Hunter-Reay qui est entrée en collision avec celle du Canadien Robert Wickens. À la suite du contact, la voiture d'Hunter-Reay a dévié devant celle de Wickens, puis Wickens a été propulsé dans les barrières de sécurité. La voiture de Wickens a été désintégrée sous l'impact, mais la coque de sécurité semblait toujours en bon état. Wickens, évidemment, a été transporté à l'hôpital par hélicoptère à la suite de l'accident. Écoutez, pour le moment, ça semble seulement des blessés, là. On va vous tenir au courant de tout ça, mais quand même, ça a été un accident quand même assez important du côté de la Pennsylvanie. Donc, au cours de l'après-midi, je vais essayer de vous tenir au courant de ce qui s'est passé là-bas. On parle des Alouettes avec Mathieu Proulx, qui a regardé le match, évidemment, hier, travaillé avec Bruno Eppel du côté de RDS. Salut, Mathieu.
Salut, Yannick.
Alors, Mathieu, les Alouettes qui, encore une fois, malheureusement, perdent le match 40-24. On surveillait de très près le point d'intérêt, c'était les débuts d'Antonio Pipkin. Puis finalement, il a pas mal fait hier. La seule affaire, c'est qu'il affrontait Mike Riley des Eskimos.
Ouais, quand on joue contre Mike Riley, il faut être prêt ou être capable, en tout cas, de mettre au moins 30 points puis de passer pour 350 verges parce que lui va le faire à chaque match. Mm-hmm. Malheureusement, on n'a pas été assez longtemps sur le terrain. L'unité défensive n'a pas été en mesure de limiter Mike Riley puis de le forcer dans des dégagements. Ce qui a fait en sorte qu'Antonio Pipkin, on a eu un échantillon peut-être plus petit que ce qu'on aurait aimé avoir, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est ce qu'on voulait voir. On voulait analyser son jeu, puis dans l'ensemble, ça a été plutôt positif, même voire surprenant.
Ouais.
Considérant qu'Antonio Pipkin était sur l'équipe de pratique l'année passée pendant un moment, était habillé à quelques matchs, mais n'a jamais joué, sauf en fin de saison où il avait lancé 9 passes. Donc, on ne savait pas vraiment quel genre de joueur c'était. Puis le 19 juin, après le match numéro 1, cette année, on l'avait libéré. Donc, c'est ce qu'on pensait.
Ben oui.
C'était pas l'avenir de l'équipe.
Mais je veux dire, je vais continuer là-dessus. Je veux dire, comment ça se fait que le 19 juin, on a libéré un gars comme ça? Hier, tout le monde s'attendait à ce qu'il se fasse massacrer Antonio Pipkin contre Edmonton. Ouais. Puis finalement, il sort de là quand même pas trop égratigné. Moi, je trouve qu'il a fait correct. Il était plus que correct même.
Ben, tout à fait d'accord avec ton analyse, Yannick. Puis c'est un peu ça la question que je me pose aujourd'hui puis qu'on se posait hier pendant le match. Parce qu'on l'a rapatrié en raison des blessures à Jeff Matthews, à Vernon Adams. On a eu Jolie qui est blessé. Ben, sais-tu quoi? À voir ce qu'il a fait hier, je le prendrais au-dessus de ces trois gars-là.
Ben.
C'est ça qui est surprenant. C'est là le problème. Avez-vous le ballon, comment il sortait de ses mains?
Oui.
Des belles passes, une belle spirale, une belle vélocité. Il y avait un doigté sur les passes courtes, mais quand même, tu es capable de mettre du jus sur le ballon pour les passes profondes pour que ça arrive vite. Il y a un bras canon, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un gars qui est clairement mobile aussi. On l'a vu courir à quelques reprises, mm-hmm. C'est assez concluant. Il semblait en calme, en contrôle. Tu te dis, mais c'est quoi l'évaluation qu'on a faite de ce gars-là pour le libérer alors qu'on était en quête perpétuelle de carrière de l'avenir puis de développer des jeunes? Ce gars-là a 23 ans puis il est capable de faire ça.
Ouais.
Ben, il me semble que c'est le genre de gars sur lequel ou avec lequel tu veux travailler pour l'avenir, puis pas un gars comme Willie ou Jeff Matthews qui ont eu leur chance mais n'ont pas livré la marchandise. Je me l'explique bien mal. Donc, c'est un positif dans le sens où sa performance était super bonne.
Oui, oui.
Puis ses statistiques, peut-être pas reluisantes, mais ça aurait été bien meilleur si quelques joueurs avaient fait les jeux, notamment T.J. Graham sur une longue passe.
Ah oui, bien c'est ce que.
À peu près oui, 35-40
mètres. Ben oui, comment ça se fait qu'il attrape pas ça? Il est supposé d'attraper ça, lui-là, là.
Bien, ça, c'est un autre des problèmes. T'sais, regarde, Yannick, je sais que tu le sais, il n'y en a pas juste un problème chez les Alouettes, c'est les parts, le problème. Puis du côté des receveurs, on a beaucoup de problèmes aussi. T.J. Graham, c'est un gars qui a un beau curriculum, un haut choix au repêchage avec les Bills, a passé quelques années dans la NFL, c'est un marchand de vitesse, mais c'est pas pour rien qu'il n'est pas dans la NFL. Parce que regarde, de courir des tracés comme ça, vite comme ça, ça ne s'attrape pas le ballon. Puis c'est un peu ça le problème avec T.J. depuis qu'il est à Montréal, régulièrement échappe des ballons. Puis ça, c'est le genre de jeu. Quand tu es un gars rapide, il faut que tu sois capable d'attraper le ballon par-dessus l'épaule extérieure. Mm. C'est ça ton jeu. C'est des fades, des passes profondes. Mm. La balle, elle était parfaite entre les mains. Il échappe ça. Si c'est pas un toucher de 60 verges, c'est au moins un gain de 45-50.
Ben oui.
C'est pardonnable d'échapper des passes comme ça. Quand tu as un jeune corps qui arrive, qui a son premier départ, ce qu'on va dire, c'est que tout le monde doit élever son niveau de jeu. Ce qui veut dire que les joueurs de ligne doivent un peu mieux bloquer et les porteurs de ballon doivent peut-être en donner un peu plus et avoir plus de succès au sol. Puis les receveurs doivent capter tout ce qui est dans le rayon possible de passe captable. Puis on n'a pas fait ça hier, malheureusement, pour le jeune Pipkin. Mais au moins, on a vu une belle performance d'un jeune corps. Puis j'espère que ça va donner la chance de peut-être que les Alouettes vont lui donner plus de temps de jeu, vont peut-être passer plus de temps à essayer de le développer. C'était une belle performance de sa part, mais dans l'ensemble, les Eskimos d'Edmonton, c'est une bien meilleure équipe
c'est
que celle des Alouettes. Puis le résultat final n'est pas si surprenant que ça.
OK, Mathieu, il y a d'autres choses. Il y a une autre affaire qui est inacceptable. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes au sein des Alouettes, mais faites pas exprès non plus pour donner la chance, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième chance à l'adversaire de revenir. L'indiscipline. Mike Sherman a dit après le match, les gars ont fait des gestes égoïstes. C'est inacceptable que ça arrive. Puis, tu sais, j'écoutais le match RDS, puis j'entendais Pierre parler. Tu sais, beau sac du corps contre Riley, pénalité sur le jeu. Autre jeu, autre pénalité. Tu sais, à un moment donné, donne-leur la victoire tout de suite, puis va-t'en chez vous. Je veux dire.
Alors, c'était complètement ridicule. Honnêtement, là, c'était une honte. C'était une honte. J'étais assez à côté de Bruno pour se dire, mais c'est pas sérieux. Ils veulent donner le match, tu sais. Encore une fois, quand tu as du talent comme les Alouettes, qui n'est pas le plus gros talent de la Ligue canadienne de football, tu dois absolument de faire toutes les petites choses comme il faut. Tu ne peux pas donner aucune chance, tu ne peux pas te tirer dans le pied, tu peux faire des erreurs bêtes. Hier, là, ils en ont tellement fait. À un moment donné, en attaque, là, trois pénalités consécutives, formation illégale, 13 hommes dans le caucus, hors-jeu offensif. Hey, trois jeux de suite, on n'a même pas fait de jeu, on a reculé d'à peu près 20 verges. Puis après ça, tu te dis, ça, à la limite, c'est des pénalités niaiseuses, mais c'est encore plus d'avoir des gars, Woody Barron, qui lance le ballon dans la face de l'adversaire.
Ben oui!
Tu sais, que tu joues au football quand tu as 5 ans, pee-wee ou peu importe, jusqu'au rang professionnel, tu sais que si tu fais ça, tu vas avoir une pénalité. Qu'est-ce qui te passe par la tête? J'ai jamais. Moi, ça me dépasse de voir des gars faire des gestes ou signer eux. Dans un jeu, c'est pas comme si c'était la grosse frustration, puis là, tu sais, c'était intense. C'était même pas intense, c'était juste un geste stupide. T'as pas ça, t'as Dominique Alice qui est dans le fond de la zone des buts, dit quelque chose qui n'est pas supposé. Les gars le savent. Il y a une liste de mots qui sont interdits. Il y a des mots que tu ne peux pas dire. Dès qu'ils entendent le mot, ils te lancent un mouchoir. Tu connais les mots. Dominique Alice, ça fait 5 ans que je vais aller canadienne. Il les connaît. Ben, il dit le mot, puis il se fait pénaliser 15 verges, puis on continue la séquence. À quelque part, là, c'est là où Mike Sherman va devoir mettre son pied à terre.
Mais c'est-tu. Oui, mais Mathieu, c'est-tu parce que, justement, le personnel d'entraîneur a passé de pogne avec les joueurs? Ça part d'où, ça?
C'est une bonne question, Yannick. Je ne sais pas. C'est clair que quand tu as une équipe qui est 1 et 7, maintenant 1 et 8, il y a énormément de frustration. Puis, tu sais, tu dis, ben là, le coach, peut-être que si on est 1 et 8, moi, je trouve qu'on a du talent, fait que peut-être qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ah, ben, tu sais, tel joueur, peut-être qu'il n'y a pas d'affaires. Pourquoi c'est pas moi qui joue si on est 1 et 7? Donc, il y a beaucoup de frustration. C'est beaucoup plus difficile de gérer un vestiaire à 1 et 7 qu'à 7 et 1. Quand 7 et 1, tout le monde va bien, ça, tout le monde se tient ensemble. Là, tout le monde fait un peu du chacun pour soi pour se protéger. Il n'y a pas vraiment d'unité dans cette équipe-là. On tente encore de trouver un peu c'est qui le noyau de joueurs important. Fait que tout le monde est un peu partout. Puis, clairement, si on continue d'être indiscipliné à ça, il faut toujours regarder l'entraîneur-chef pour ces affaires-là, parce que ça revient sur sa chaise à lui, puis sa responsabilité à lui de s'occuper de la discipline de l'équipe. Puis, il y a une équipe très indisciplinée en ce moment, puis pas juste indisciplinée, mais tu me parles de le dire, mais un peu stupide à l'occasion. Ouais.
OK. Ils ont perdu le match, les Alouettes, et ils ont perdu également les services du porteur de ballon, Tyrell Sutton, blessé au genou gauche. On ne sait pas si c'est sérieux, puis il va s'absenter encore pour quelques matchs ou quelques semaines. Mais tant qu'à y être, tu m'ouvres la porte sur Sherman, ça va être ma dernière question. On a atteint la mi-saison hier. 9 matchs.
Ouais.
Tu sais, au-delà de l'affiche, là, comment il gère son équipe? Comment sa prise de décision, comment tu le trouves depuis qu'il est avec les Alouettes comme entraîneur-chef?
Ben, c'est pas, j'avais rien de convaincant. C'est sûr que la première chose qu'on va regarder, c'est l'affiche, mais allons plus loin que ça. C'est une équipe qui, justement, hier, fait plein d'erreurs en attaque. C'est une équipe qui semble pas être créative. C'est une équipe qui réussit pas à créer. C'est supposé être un gourou offensif. Vous êtes un gars qui est capable de diriger des corps. Je le sais, tu vas me dire qu'il y a beaucoup de blessures. C'est 5e corps partant depuis le début de la saison. Ça aide en rien. Nos systèmes des permutations parce qu'on voulait trouver quelque chose de nouveau. C'est aussi lui ça, qui a amené ça. Le système offensif, tu n'as jamais de receveur libre nulle part sur le terrain. Il y a toujours des demi-défensifs sur le dos des receveurs parce qu'on n'est pas capable de créer des jeux qui donnent la chance aux receveurs d'avoir de la séparation. Donc, son attaque ne fonctionne pas très bien. Son équipe est indisciplinée. On l'a entendu avoir des discours, par exemple, avec Tommy Campbell avant le match contre Ottawa, quand il a expliqué à Didier, dans la question d'avant-match, pourquoi Tommy Campbell n'est pas en uniforme. Il avait l'air perdu, il avait pas l'air de savoir quoi répondre, hein, c'est personnel, tout ça, puis il savait pas, il a pas l'air de savoir c'est qui le remplaçant. Il a pas l'air tout à fait en contrôle de la situation actuellement. Puis tu sais, c'est très difficile, Yannick, je vais faire toujours attention quand je fais ça, parce que c'est tellement complexe, puis on n'est pas là au quotidien. Mais ça semble pas être un gars qui, actuellement, a une bonne emprise sur son équipe.
Okay.
Ça, c'est mon impression, et c'est ce que je sens de l'extérieur. Est-ce que c'est réellement ça? Je sais pas, mais de l'extérieur, ça semble pas un gars qui a encore mis cette équipe-là à sa main, puis qui est en plein contrôle de la situation. C'est une équipe qui semble vraiment se chercher à la mi-saison. Puis lui, puis également, encore une fois, Kevis Reed qu'il faut regarder, parce que le talent qui est sur le terrain est clairement insuffisant pour permettre à Mike Sherman d'avoir du succès comme entraîneur-chef. Fait que c'est une affaire d'équipe, ça va pas très bien dans l'ensemble.
9 matchs de jouer, il en reste 9. Écoute, ça peut pas, ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Je le souhaite pour les Alouettes, mais je le souhaite aussi pour les amateurs qui suivent les matchs, qui les écoutent à la radio, qui les regardent à la télévision. Puis c'est contre Toronto vendredi prochain. En fait, ça va coïncider l'équipe qui sera au stade Percival Molson. C'est la dernière équipe que les Alouettes ont battue à domicile. Non,
ouais.
Dernier gain.
Donc, dernière victoire à domicile.
À domicile, c'est ça.
Domicile. Ouais, le 11 août 2017.
Wow, sont dus. OK, Mathieu, hey, merci beaucoup. Hein, toujours un plaisir.
Yes, et, merci, Yannick.
Et puis, on se reparle bientôt. Salut bien.
Ça
Mathieu
marche.
Proulx, donc, salut. Qui analysait cette défaite des Alouettes contre les Eskimos d'Edmonton.